Et les matins débutent donc avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Sauver des vies, rester prudent, c'est le message tweeté hier soir par le président Emmanuel Macron alors que des centaines de milliers de salariés reprennent le travail ce matin après 2 mois d'arrêt. Nous ferons un point dans un instant sur la situation dans les transports depuis la gare d'Austerlitz à Paris.
Et les transports sont-ils prêts pour le déconfinement, Catherine? Ça sera la question du jour et je la poserai après ce journal à Gilles Dansart. Il est journaliste spécialiste du secteur ferroviaire.
Le déconfinement, enjeu politique majeur pour l'exécutif et un premier couac législatif, vous l'entendrez dans ce journal. À suivre également, ce lundi, jour de pré-rentrée pour 130 000 enseignants du primaire, l'Association des maires de France demande encore un peu de temps pour répondre au cahier des charges demandé par le gouvernement. Et puis prudence, si vous habitez en Gironde et dans les Landes, alerte rouge de Météo France pour pluie et inondations. Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas continuer le télétravail, retour physique dans les entreprises aujourd'hui, elles sont 400 000 à rouvrir leurs portes après 2 mois de confinement. Des centaines de milliers de personnes vont donc devoir reprendre les trajets domicile-travail. En voiture, gare au bouchon, a prévenu la maire de Paris Anne Hidalgo. Dans les transports en commun, la SNCF assure que 6 Transiliens sur 10 vont rouler aujourd'hui, ainsi que la moitié des TER. La RATP vise 75% du trafic en Ile-de-France, même si une soixantaine de stations resteront fermées. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Vous êtes à la gare d'Austerlitz au sud-est de Paris où passent trains, métro, RER. Est-ce que les Franciliens ont déjà repris le chemin des transports publics ?
Pas vraiment pour ce que j'en vois pour l'instant. La gare d'Austerlitz est loin d'avoir retrouvé son rythme habituel. Le métro aérien, la ligne 5 qui passe d'ailleurs sous nos yeux, est très peu remplie. Il est donc possible d'y respecter la distanciation physique imposée aux voyageurs. 1 mètre, hein, vous savez, entre chaque passager, 1 fauteuil sur 2, ce qui limite considérablement, drastiquement le nombre de places. Le métro parisien peut normalement accueillir 800 voyageurs. Il pouvait avant la crise. Il ne peut, il ne doit aujourd'hui circuler qu'avec 180 passagers au lieu de 800. Au total, donc la capacité d'utilisation du réseau ne sera que de 15-20% au maximum donc de sa capacité. Dans la gare d'Austerlitz, la distanciation physique est elle aussi matérialisée devant les guichets, sur les quais, par de petits ronds marqués au sol, obligation de s'y tenir. L'autre obligation, c'est le port du masque pour tous les usagers des transports franciliens dès l'âge de 11 ans. Obligation, là on le voit parfaitement respecté, tout le monde en porte. Ici, masque en papier, jetable ou masque maison. Un voyageur nous disait tout à l'heure que dans sa rame, il n'avait vu qu'une seule personne ne pas porter de masque. Alors ceux qui n'en porteraient pas, bien sûr, prennent le risque d'être verbalisés, comme ceux qui emprunteraient aussi les transports publics sans attestation de leur employeur. Il en faut une durant les heures de pointe. Les heures de pointe, c'est entre 6h30, 9h30 et entre 16h et 19h. Il faut justifier son trajet pour des raisons professionnelles, mais aussi médicales ou d'accompagnement scolaire. Il y aura une tolérance aujourd'hui, mais pas forcément demain ou après-demain pour ceux qui n'aurait pas cette attestation. Encore un petit mot pour vous dire qu'en cas de forte influence, des filtrages pourront avoir lieu à l'entrée des gares. Des gendarmes sont d'ailleurs positionnés ici à Austerlitz, où l'influence, vous l'avez compris, reste pour l'instant très limitée. Un vendeur de café qui vient juste de rouvrir après 2 mois de fermeture s'en désolait un petit peu tout à l'heure. Il n'a pas retrouvé l'animation de sa gare comme habituellement.
Véronique Rebérotte, merci. Vous étiez en direct de la gare d'Austerlitz pour France Culture avec Yves Lehorse à la technique. 135 euros d'amende, puisque vous le disiez Véronique, il faut porter un masque dans les transports en commun sous peine d'amende. L'État va mettre 10 millions de masques à disposition des opérateurs de transport pour les usagers. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Plus de 4 millions rien que pour l'Île-de-France, région où une attestation est également obligatoire donc pour accéder aux transports en commun aux heures de pointe. Les salariés doivent la demander à leur employeur. Sauf que cette mesure, adoptée samedi au Parlement, tout comme la limite de déplacement dans un rayon de 100 km de son domicile, cette mesure n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel cette nuit. Il ne se réunira qu'aujourd'hui donc. En attendant, l'Élysée et Matignon appellent les Français à la responsabilité pour que ces dispositions soient respectées. Un couac législatif et politique donc, en ce premier jour de déconfinement, qui est un enjeu majeur pour l'exécutif dans un contexte de défiance des Français vis-à-vis d'un pouvoir qui a donné l'impression au départ de ne pas dire toute la vérité, Stéphane Robert.
L'heure des comptes n'est pas encore venue pour Emmanuel Macron et son gouvernement, mais deux éléments intervenus au tout début du confinement ont contribué à fragiliser la confiance d'une partie de la population et à rendre le déconfinement qui débute aujourd'hui assez périlleux. D'abord, le maintien du premier tour des élections municipales au moment même où était décidée la fermeture des bars, des restaurants et le confinement des Français. Et puis l'affirmation que le port du masque n'était pas nécessaire, alors que le même pouvoir exécutif aujourd'hui affirme qu'il est essentiel à la phase de déconfinement. Le résultat est qu'une majorité de Français, près de 60%, affirme ne pas faire confiance au gouvernement pour la gestion de l'épidémie et qu'Emmanuel Macron, comme son Premier ministre, sont contraints de redoubler de prudence pour tenter de faire redémarrer le pays. Il était question au départ de rouvrir les écoles partout et pour tout le monde. Finalement non, ça se fera sur la base du volontariat. On devait imposer le maintien du confinement pour les plus de 65 ans. Finalement non, on les incite à rester chez eux. Ce n'est qu'une recommandation. Et puis, il était question de maintenir l'interdiction de se rendre sur les plages. Là encore, l'exécutif fait machine arrière. La réouverture est possible au cas par cas, avec une autorisation préfectorale. Le pouvoir exécutif sait qu'il doit tenir compte de la défiance qui s'exprime et par conséquent de l'acceptabilité des mesures qu'il impose. Il en appelle donc à la responsabilité de chacun, sachant évidemment qu'il y a un risque que l'épidémie redémarre. C'est la raison pour laquelle Édouard Philippe a dit ne pas exclure un reconfinement si nécessaire, même s'il apparaît aujourd'hui urgent que l'économie du pays redémarre, afin d'éviter, selon le terme employé par le Premier ministre, un effondrement.
Vous écoutez France Culture, il est 7h06, c'est la suite du journal de la journaliste masquée, autrement dit Catherine Dutu, ce lundi, jour de pré-rentrée pour 130 000 enseignants du primaire, soit un tiers d'entre eux.
Ils préparent l'arrivée des élèves à partir de demain, de jeudi ou encore de la semaine prochaine, avec d'abord les maternelles, les CP et les CM2, une rentrée qui s'annonce très compliquée puisque les conditions sanitaires inquiètent parents, professeurs et élus, et cela malgré les mesures barrières qu'il faudra respecter, avec des demi-groupes encore, pas plus de 15 élèves par classe en primaire et 10 en maternelle. Si le ministre Jean-Michel Blanquer a indiqué la semaine dernière que 85% des communes étaient prêtes à accueillir les élèves dès cette semaine, ce chiffre est contesté par les maires. Agnès Lebrun, la vice-présidente de l'AMF, l'association des maires de France en charge des questions d'éducation, demande du temps supplémentaire pour répondre au cahier des charges demandé par le gouvernement.
Il lui manque du temps parce que les annonces ont été faites quand même depuis quelques jours seulement. Il nous manque des éléments d'information que nous sommes en train de recueillir parce qu'il faut évidemment adapter finement au cas par cas, les critères étant principalement la configuration des locaux, les effectifs des élèves qu'on n'a pas forcément, les effectifs des enseignants, les effectifs des agents. Tous ces critères sont absolument déterminants puisqu'on ne peut pas organiser de la même façon la reprise de 70% de l'effectif scolaire, de 25% de l'effectif scolaire. Donc, il faut évidemment que les choses progressivement, encore une fois, s'installent, qu'on puisse étudier la configuration de chaque école pour faire une proposition dans le respect, évidemment, des garanties sanitaires. Et puis ensuite, il faut qu'on regarde combien d'élèves se sont inscrits, combien d'enseignants sont présents dans l'établissement, combien d'agents peuvent intervenir dans l'établissement. Donc, vous voyez, ce sont des critères qui sont absolument essentiels et pour lesquels, évidemment, nous avons besoin de temps parce que sans ce temps indispensable, eh bien, on ne peut rien mettre en place.
Agnès Lebrun, la vice-présidente de l'Association des maires de France, jointe par Hakim Kasmi. Après la Dordogne, la Vienne et la Vendée, un nouveau foyer de contamination au Covid-19 a été découvert dans les Hauts-de-Seine à Clamart. Un salarié d'un centre de jeunes travailleurs y a contracté le coronavirus. 28 personnes de ce centre ont donc été testées et 7 nouveaux cas ont été détectés, comme une piqûre de rappel sur la prudence à adopter même pendant le déconfinement. Car le risque d'attraper le Covid-19 n'a pas disparu, nous sommes encore loin de l'immunité collective qui serait de l'ordre de 70% de la population pour ce virus. Une deuxième vague de contamination est donc encore possible. C'est la mise en garde de Pierre-Yves Bouel, professeur d'épidémiologie à Sorbonne Université.
Ce que montrent maintenant les études épidémiologiques, c'est que la fraction de la population qui a été en contact avec le virus reste faible. On va avoir 5 ou 6% de la population française qui aura été en contact avec le virus à l'issue de cette première période. À partir du moment où le virus circule encore et que l'on a une population qui est très susceptible à l'infection, il n'est pas impossible qu'une nouvelle circulation du virus recommence dans des conditions qui pourraient être les mêmes que celles qui ont prévalu en janvier et février. Bien sûr, on sait en épidémiologie assez traditionnellement que lorsque le risque semble diminuer, l'adhésion devient moins forte aux mesures de prévention. Il va falloir suivre la dissémination du virus au cours des mois qui vont venir et s'assurer que la population reste bien consciente des risques qui sont encourus si le virus continue à circuler.
Le professeur Pierre-Yves Boël, il répondait à Margot Delpierre. Une deuxième vague de contamination, c'est ce que craignent ce matin la Corée du Sud et la Chine avec de nouveaux cas recensés, notamment à Wuhan, le berceau de l'épidémie de Covid-19. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. L'Afrique, elle, s'en tire finalement assez bien au point que plusieurs pays ont également assoupli des confinements devenus intenables pour les populations les plus pauvres. L'Organisation mondiale de la santé pourtant sonne l'alerte. Elle prévoit un pic épidémique dans les 5 à 6 semaines. Où en est vraiment l'Afrique? Élément de réponse avec Claude Guibal.
En Afrique, le coronavirus semble avoir pour l'instant moins tué qu'en Europe. Mais lorsqu'on lui parle de relâcher la vigilance, l'épidémiologiste camerounais Yaboum n'a qu'une seule réponse.
Surtout pas, parce qu'aujourd'hui, l'hécatombe n'a pas eu lieu. Mais est-ce qu'elle va avoir lieu, premièrement? Deuxièmement, on a eu le temps de voir l'épidémie venir. On a pris des mesures au même moment que les Européens les prenaient alors qu'ils étaient dans le cadre de l'épidémie. Donc ça nous a protégés. Non, l'épidémie n'est pas finie.
Car les inquiétudes de l'OMS qui prévoit un pic de l'épidémie d'ici mai coïncident avec ces cas qui ont doublé la semaine dernière au Nigeria ou en RDC. Sur la cinquantaine de pays africains, le bilan est très hétérogène. L'épidémie n'étant pas née en Afrique mais importée, ce sont surtout les zones qui ont le plus d'échanges avec le reste du monde qui ont été les plus touchées. Sur le facteur chaleur et résistance au virus, les scientifiques africains sont plus mitigés. Ils le sont moins sur l'effet jeunesse du continent face à une maladie plus mortelle sur les personnes âgées. Ils s'interrogent sur une potentielle meilleure réponse du système immunitaire des populations africaines dont les organismes sont plus régulièrement agressés par des bactéries et des virus. Et c'est là que les scientifiques africains sonnent aujourd'hui l'alerte. L'Afrique, rappelle-t-il, a une expertise sur les épidémies. En témoigne la réponse à Ebola, jusqu'à la mise en place d'un vaccin, des chercheurs qui n'ont quasiment aucun moyen pour leur recherche, ce qui permettrait à chaque pays d'adapter la meilleure réponse à l'épidémie.
Quelques mots du temps en France pour ce lundi 11 mai. Météo marquée par une vigilance rouge en Gironde et dans les Landes pour pluie et inondations. Alerte orange cette fois dans 26 départements du sud-ouest ainsi que du centre aux Vosges et de l'Île-de-France à la Bourgogne. Au meilleur de la journée, il fera entre 12 et 20 degrés des Flandres vers le Roussillon jusqu'à 24 en Corse, Guillaume Erner.
Déconfinement par mauvais temps. Merci beaucoup Catherine Dutude.